C'est le deuxième jour de notre série consacrée au monde émergent face au Covid. La pandémie a frappé les pays riches comme les pays en développement. Et si certains émergents font figure d'exemple dans la gestion de la crise sanitaire, d'autres peinent à surmonter l'épreuve. Dans le sillage de la Chine, plusieurs États asiatiques ont réussi pour le moment à vaincre le virus et leur redémarrage économique pourrait se faire sous le signe de la démondialisation. Nous en parlions hier. De l'Asie, nous rejoignons l'Afrique, un continent largement épargné par le Covid, et cela malgré les prédictions catastrophistes des institutions internationales. Du Nigeria au Togo, comment les économies africaines font-elles face à cette crise mondiale? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour parler des économies africaines et de leur résilience, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Kako Noubukpo, ancien ministre togolais de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, doyen de la faculté d'économie de l'université de Lomé. Avec nous également Estelle Brack, économiste, présidente fondatrice du cabinet de conseil Chiralité. En fin d'émission, Xavier Martinez sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Kako Noubukpo et Estelle Brack, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. L'Afrique représente 17% de la population mondiale et pourtant, elle ne comptabilise à ce jour que 3% du nombre de décès du Covid dans le monde. Comment comprendre que le continent africain ait été si peu touché, Kako Noubukpo ?
Oui, je crois que la jeunesse du continent a été un facteur favorable. Hein. Comme vous le savez, l'âge médian en Afrique, c'est 19 ans. Et 40% de la population a moins de 15 ans. Et en revanche, il n'y a que 3% de la population qui a plus de 65 ans. Donc, vous voyez que de façon quasi mécanique, il n'est pas surprenant que l'Afrique, du fait de la jeunesse de sa population, résiste plutôt bien à la pandémie.
Il y a la jeunesse, mais il y a aussi le manque de statistiques, Kako Noubukpo.
Oui, c'est vrai que, comme on dit souvent, l'Afrique est un désert statistique, donc il faut nuancer les chiffres. Mais globalement, on sait quand même qu'en plus de la jeunesse, il y a le succès des programmes de santé publique. Il ne faut pas oublier que nous avons connu une série de pandémies ces dernières années. Il y a eu Ebola, le VIH-Sida, et donc les États étaient préparés dans le cadre des programmes de politique de santé publique, à faire face à de nouvelles pandémies.
Et puis il y a aussi je vous laisse poursuivre.
Oui, il y a une donne, mais sur laquelle nous n'avons pas beaucoup de certitude, c'est la question géographique. Il paraîtrait que le virus soit moins virulent, justement, avec la chaleur et l'humidité. Et ce qui expliquerait, en revanche, pourquoi l'Afrique du Sud semble beaucoup plus vulnérable, notamment au moment du déclenchement de l'hiver en Afrique du Sud. Donc il y a voilà des éléments qui, mis bout à bout, peuvent expliquer la relative résilience de l'Afrique.
Estelle Brack, on peut aussi évoquer le flux de voyageurs internationaux, les flux qui sont moins importants en Afrique qu'en Europe, aux États-Unis et en Asie.
Oui, je pense qu'il y a cet aspect-là. On voit aussi un certain nombre de personnalités du monde économique qui ont été touchées par le Covid et qui sont des personnes qui faisaient l'aller-retour entre l'Europe et l'Afrique et les capitales africaines. Je pense qu'il y a aussi une dimension géographique et là, même si certaines grandes villes d'Afrique, je pense à Lagos ou des grandes capitales ont bénéficié entre guillemets d'un exode rural important. La population en Afrique reste encore pour une partie non négligeable en zone rurale ou dans des petites villes. Donc il y a peut-être moins de brassage aussi, comme on peut le voir dans nos capitales.
Mais alors comment expliquer un tel écart entre les premières projections? Je rappelle que l'OMS prévoyait en mai 190 000 morts en Afrique du Covid au cours de la première année. En réalité, ce serait quelques dizaines. Comment expliquer cela, Kako Noubukpo? Est-ce que c'est lié au fait que les préjugés sont encore très ancrés, les préjugés sur une Afrique sujette aux maladies?
Oui, il y a de cela, mais il y a aussi le caractère planétaire de cette pandémie qui a fait que les autorités africaines ont pris d'emblée la mesure du risque. Et d'ailleurs, quand vous suivez l'actualité africaine, vous voyez naître un début de polémique parce qu'on voit que la tuberculose, qui tue à peu près 400 000 personnes en Afrique chaque année, a aujourd'hui moins d'importance de la part des pouvoirs publics que le coronavirus qui n'a tué jusqu'à présent, entre guillemets, que 39 000 personnes en Afrique, puisque tous les efforts qu'on faisait pour lutter contre la tuberculose ont été mis maintenant sur le coronavirus du fait du caractère planétaire et donc quelque part fortement anxiogène de cette pandémie.
Il y avait peut-être effectivement, Estelle Brack, une volonté d'un certain nombre de dirigeants africains de montrer qu'ils prenaient la mesure de la menace sanitaire liée au coronavirus et du coup des mesures qui ont été prises de façon assez précoce, la fermeture des frontières, l'interdiction des rassemblements.
Oui, et le port du masque et la distanciation, le fait de rester chez soi, et ça a été... comme l'a dit Kako, je pense qu'il y a cette habitude aussi, face aux épidémies, une réaction de la population qui a suivi les instructions et qui a pris peut-être aussi le risque assez au sérieux et qui s'est adapté. Je pense qu'il y a eu un effort d'adaptation important. Alors, sur le continent.
On va voir comment cet effort d'adaptation a également eu lieu sur le plan économique, puisque si le bilan sanitaire n'est pas encore trop inquiétant à ce stade, Kakonoubukpo, en revanche, le choc est assez sévère sur le plan économique, en particulier pour les économies dépendantes des hydrocarbures.
Ah oui, parce que quand vous prenez le continent africain, vous avez trois des six premières économies du continent, le Nigeria, l'Angola et l'Algérie, qui sont fortement dépendantes du pétrole. Et comme vous le savez, au début de la pandémie, on a eu une chute du prix du pétrole, alors que les budgets avaient été construits autour d'un baril à 60 dollars. Et on est descendu à 30 dollars le baril. Et du coup, on a eu ce choc. Mais au-delà des matières premières, il faut voir qu'on a aussi un choc sur le tourisme. Parce que tout est bloqué, les gens ne voyagent plus. On a un choc également sur ce qu'on appelle les transferts des migrants. La Banque mondiale prévoyait au départ une chute de 20% des transferts des migrants. Il semblerait que ce soit un peu moins. Mais donc, voilà, quand on additionne tous ces éléments, on comprend pourquoi le FMI annonce à l'heure actuelle une baisse de 3%. Du PIB africain, alors qu'au mois de mars, on avait des prévisions qui allaient jusqu'à 12%, soit 300 milliards de dollars.
Alors effectivement, les pays tournés vers le tourisme sont particulièrement exposés aujourd'hui. L'île Maurice, le Maroc, la Tunisie ou encore le Rwanda qui a développé le tourisme de conférence.
Rwanda was performing at very high growth.
Avant la Covid-19, le Rwanda connaissait une très forte croissance. En 2019, il était même dans le top 5 mondial. Avant cette crise, nous avions prévu une croissance de 8% pour 2020. En juin, nos prévisions sont tombées à 2%. Aujourd'hui, nous sommes en train de revoir les chiffres et il semble que l'on se dirige sous la barre des 2%.
Nous avions prévu d'engranger 80 millions de dollars cette année, mais nous ne les avons finalement pas gagnés. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des événements prévus ont été repoussés à 2021. Donc, même si cet argent n'a pas été généré cette année, il le sera l'année prochaine.
Voilà le représentant du FMI à Kigali, suivi de la présidente du bureau des conférences rwandais. Des paroles recueillies par RFI. Le Rwanda, Estelle Brack, était en plein essor lorsque la pandémie a démarré.
Oui, le Rwanda a fait l'objet de politiques économiques vraiment ciblées. À la fois pour développer les infrastructures de communication, on a souvent cité cet exemple du Wi-Fi disponible dans les parcs, mais disponible partout, vraiment une politique très ciblée qui a fait du pays un des pays cibles ou un des pays les mieux accueillants pour les investissements étrangers. Et donc c'est un, c'est mais en développant une activité diverse et en particulier une économie de services.
Mais plus largement, est-ce qu'on peut dire, Estelle Braque, que le Covid est arrivé à un moment où l'avenir économique s'éclaircissait pour un certain nombre de pays africains ?
Oui, mais je pense pas que le Covid va véritablement retourner la situation. Je pense que le Covid accentue des tendances qui étaient déjà présentes avant, et les pays qui ont déjà fait des efforts d'investissement dans les infrastructures, notamment en matière de réseau, réseau télécom et d'accès à web, à Internet, et va aussi permettre le développement de solutions de services à distance, par exemple. Alors, donc, il y a une accélération de ces tendances.
Il y a un certain nombre de pays qui résistent bien. En effet, quatre pays africains échappent en particulier à la récession. L'Éthiopie, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Et parmi les pays qui résistent, on peut aussi citer le Bénin, le Togo ou encore le Sénégal, Kakonou Boukpo.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, au Togo, on a eu une expérience qu'on appelait Novici, hein, qui veut dire « entraide », de transfert d'argent via les téléphones portables. Et cette expérience a été saluée par la belle d'économie Esther Duflo, parce qu'elle a permis à 20% de la population d'avoir des ressources de façon assez rapide, simplement avec les numéros de téléphone et puis les cartes d'électeurs. Et c'est quelque chose qui rappelle un peu ce que le président Lula avait fait au Brésil dans la
Bolsa Familia
2010. Exactement. Et on voit bien que cette Afrique est un véritable terreau d'innovation, parce qu'elle résiste, elle innove, elle s'adapte aux différentes crises, notamment celle-là.
Oui. Alors effectivement, cette initiative a été saluée par Esther Duflo, cette initiative d'un revenu de solidarité qui sera peut-être pérennisé, mais il y a tout de même des inquiétudes du côté de certains pays africains. Je pense en particulier à l'Afrique du Sud, où le chômage pourrait augmenter et atteindre 37%. Il y a aussi des inquiétudes du côté du Nigeria et de la RDC, qui sont parmi les pays les plus peuplés d'Afrique. Un véritable risque de voir exploser l'extrême pauvreté dans ces pays, Estelle Braque ?
Oui, je le crains. Et là, le Covid a accéléré une situation qui était déjà présente. Hein. L'Afrique du Sud a déjà exprimé, déjà l'année dernière, en 2019, des difficultés importantes par la voix du gouvernement. Le Nigeria est un des pays qui a le plus souffert de la baisse du prix du pétrole qui dure depuis le milieu des années 2010. Et donc effectivement, la situation de ces économies déjà fragilisées est comme un organisme humain fragilisé qui rencontre le Covid. Et la difficulté est grande. Alors après, le Nigeria a aussi subi un exode rural, comme on mentionnait, très important, avec une mégalopole comme Lagos qui... la situation actuelle risque d'encore accentuer cet exode rural. Et donc dans ces villes qui deviennent ingérables, insalubres et source de maladies aussi.
Mais alors justement, cet exode rural a permis à certaines populations de survivre face aux difficultés économiques, car ce que l'on observe depuis le début de la crise, c'est une forte résilience des économies locales, et cela grâce au secteur informel, Kakonou Boukpo.
Oui, comme vous le savez, dans nos pays, on n'a pas vraiment de capacité, comme dans les économies du Nord, à développer des filets de sécurité sociale. On n'a pas de stabilisateur automatique qui fonctionne vraiment, parce que le taux de pression fiscale est très faible, autour de 15% du PIB. Et donc, on a un secteur informel que moi je qualifie d'économie populaire, qui sert généralement d'amortisseur au choc. Et du coup, ça a été très douloureux, l'arbitrage entre le confinement et l'impératif pour des gens qui n'ont pas d'épargne de précaution d'aller travailler pour avoir quotidiennement de quoi survivre. Et du coup, ce qui était au départ une faiblesse africaine, cette incapacité à produire des filets de sécurité sociale pilotés par l'État, est devenu, dans le cadre de cette pandémie, un atout, parce que ça a permis de répondre rapidement aux exigences. Après, ce qu'il faut mettre en évidence aussi, c'est, mais on va en reparler, j'imagine, c'est que la déstructuration des chaînes d'approvisionnement a fait que dans certaines capitales, on a eu des pénuries de biens et services fondamentaux, au moins au début de la crise.
Vous parlez notamment de denrées alimentaires ?
Exactement. Notamment des produits laitiers. Et il a fallu que l'économie locale réagisse rapidement, même par rapport à la fabrication de gel hydroalcoolique, de savon. Et donc, finalement, c'est ce que Estelle disait tout à l'heure, la crise ne déstabilise pas l'Afrique. Au contraire, elle met en évidence certains signaux faibles, certaines tendances lourdes qu'on observait depuis quelques décennies.
Estelle Braque, sur ce rôle de l'économie informelle, du secteur informel dans la résilience des pays africains.
Mais c'est l'économie à l'échelle de l'homme, c'est la personne qui c'est la production, production alimentaire, la production primaire de proximité et l'échange, le commerce, pour faire circuler ces matières premières. Et donc elle est restée à petite échelle. Et ce que l'on voit également, c'est que la distanciation, le confinement, a boosté des solutions de paiement, par exemple à distance, et des solutions de, par exemple via WhatsApp, qui vous permet de commander du pain chez le boulanger, et un livreur vient vous livrer le pain, et vous payez par WhatsApp, vous payez par votre mobile, etc. Elles sont des solutions qui sont comme, je le rappelle, hein, la solution M-Pesa du paiement mobile, qui sert un peu d'exemple du paiement mobile en Afrique, est née des difficultés, des heurts et de la situation sécuritaire dangereuse à l'époque des élections présidentielles. Qui avait amené les gens à rester chez eux et devaient continuer à vivre et donc à échanger de l'argent. Et ils l'ont fait à travers le téléphone mobile.
Et là encore, c'est une expérience qui leur a servi dans le cadre de la pandémie de Covid-19, on l'imagine. Alors justement, à ce propos, Estelle Braque, je voudrais vous faire entendre Traboulsi Anwar, qui est directeur général de GreenPay. C'est une start-up de paiement en ligne qui a été développée en Côte d'Ivoire. On l'écoute ainsi que les clients qui utilisent cette application.
Aujourd'hui, il existe moins de 800 terminaux de paiement qui ne prennent que les cartes de crédit. Donc la plateforme que GreenPay a développée avec les opérateurs mobiles que sont Orange et MTN va permettre justement à tout le monde d'avoir la possibilité de payer comme il se doit.
J'ai vu que depuis un certain temps, ici on peut payer par Orange Money, donc je ne me fatigue plus. Hein. Moi j'arrive, je paye par Orange Money maintenant, c'est rapide. Bon voilà, je viens de faire une opération, c'est passé très vite. Et apparemment, il me dit que c'est dans toutes les stations. Ça passe très bien, en tout cas. C'est sécurisé, c'est simple.
Cette innovation nous a permis d'avoir, en tout cas, beaucoup de clients. Et puis, en plus, ça facilite le travail. C'est simple, c'est rapide. Et ça permet de sécuriser l'espèce. En tout cas, c'est une innovation qui est dans la pointe de la technologie et qui nous facilite le travail.
Alors, les innovations comme celle-ci sont de plus en plus nombreuses dans un certain nombre de pays africains. Mais le défi maintenant, c'est peut-être de passer à plus grande échelle qu'à Konobuco.
Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, l'Afrique est un véritable terreau d'innovation frugale. Et la difficulté, c'est comment faire en sorte que ces innovations puissent s'inscrire dans des politiques de recherche et d'innovation, donc créer de vraies trajectoires technologiques de transformation des économies africaines. Et c'est pour ça que le dialogue entre les pouvoirs publics et puis les populations à la base est plus que jamais nécessaire pour qu'on puisse utiliser comme levier de transformation toutes ces innovations. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de Novici au Togo, parce que si on a pu réussir
Donc ce système, ce revenu de solidarité.
C'est parce que ça fait 10 ans. Oui, c'est parce que ça fait 10 ans qu'on travaille dans le cadre d'un fonds national de finances inclusives à l'accompagnement des jeunes et des femmes pour qu'ils puissent avoir de quoi développer de petites activités génératrices de revenus. Et donc, on s'est préparé finalement, progressivement, à cette résilience dont nous tirons aujourd'hui partiellement les fruits.
Alors on va revenir sur les conditions de la transformation de ces économies africaines, mais d'abord je voudrais qu'on parle un petit peu de l'aide internationale. Au mois d'avril, au cœur de la première vague, Emmanuel Macron proposait un moratoire sur les dettes africaines.
Moi je souhaite qu'on apporte une réponse la plus forte possible sur ce sujet parce qu'il n'est pas soutenable. Je l'ai dit hier aux Français, je suis favorable à une initiative d'annulation de dettes massive. Donc à court terme, on a eu une discussion. Il y a 4 représentants spéciaux qui ont été mandatés par l'Union africaine. Ils ont fait des propositions. Moi, j'ai souhaité qu'on reprenne leurs propositions. Leur proposition, c'est de dire moratoire. Parce qu'on a beaucoup discuté, ils ont beaucoup travaillé. Ils disent l'annulation n'arrivera pas tout de suite. Mais le moratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne rembourse plus les intérêts. Vous nous laissez de l'oxygène. On étale cette dette et on peut peut-être mettre tout le monde d'accord autour de cette idée. Mercredi soir, le G20 Finance doit acter, je touche du bois, en tout cas on y a mis tout notre capital politique, de ce moratoire sur les dettes à l'égard de l'Afrique. Moratoire qui touche les membres du Club de Paris, mais aussi la Chine, la Russie, l'ensemble des économies du Golfe et les grands bailleurs multilatéraux. C'est une première mondiale. Maintenant, elle doit précéder d'autres étapes qui sont des étapes de restructuration de la dette africaine. Mais on ne peut pas non plus dire cet effort, il sera fait que par quelques-uns et les autres ne le feront pas. Il doit être le même chez tous les grands bailleurs.
Les pays du G20 ont donc pris la décision de suspendre jusqu'à la fin de l'année les remboursements de la dette des pays les plus pauvres. L'objectif, Estelle Brack, c'était de redonner aux États africains des marges de manœuvre financières pour répondre à la crise.
Oui, je comprends que la manœuvre consistait à permettre aux pays africains ou aux pays émergents, aux pays en difficulté, à réemprunter pour faire face à leurs dépenses immédiates. Donc on est toujours dans ce cycle de la dette. Le FMI rappelait que les besoins de financement brut de la région devraient avoisiner 900 milliards de dollars pour la période 2020-2023, dont plus de 50% correspondent à l'amortissement de la dette extérieure. Donc c'est considérable et l'initiative de le moratoire que vous mentionniez représente a contribué à 0,3% des besoins jusqu'à présent.
Donc, d'où la volonté, en tout cas le souhait de certains dirigeants africains que cette dette ne soit pas seulement suspendue, mais qu'elle soit carrément annulée. Qu'est-ce que vous en pensez, Estelle Brack?
J'en pense que c'est un sujet très compliqué parce que cette dette, elle a bien été souscrite auprès d'investisseurs et de prêteurs. Donc, qui sont-ils? Quel serait l'impact sur ces investisseurs justement de passer ces montants en perte et profit, la première chose. Et la deuxième chose, c'est pour faire quoi? C'est-à-dire si on annule cette dette et si c'est pour souscrire une nouvelle dette, c'est pour moi c'est un sujet qui me semble vraiment complexe.
Alors, Kakodo Boko,
je ne peux pas apporter une réponse très simple.
Bien sûr. Alors, effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que les différents pays africains ne sont pas tous d'accord là-dessus, puisqu'évidemment, ça dépend de quoi est constituée leur dette intérieure. Vous rappelez, Kakodo Boko, qu'au Togo, les 2/3 de la dette, ce sont une dette intérieure. Donc, si on annule la dette, on pénalise les acteurs économiques du pays.
Tout à fait. Et Estelle a raison de le souligner. Actuellement, 40% de la dette africaine est souscrite auprès du privé. Et donc, même l'idée du moratoire, sa conséquence immédiate, c'est une hausse des primes de risque. Et donc, moi, je crois que le logiciel qui consiste à parler systématiquement d'annulation de la dette, il est périmé. Aujourd'hui, les pays du Club de Paris ne représentent que 6%. En fait, de la dette africaine, vous avez 29% représentés par les multilatéraux, comme le FMI et la Banque mondiale. Mais donc, je crois que c'est important de rappeler que la dette africaine, elle a doublé en 10 ans. Donc, quels sont les facteurs qui expliquent la récurrence de la dette africaine? Parce que nous sortions d'un cycle d'annulation de la dette dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Et donc, vous voyez, aujourd'hui même, la Citibank a sorti une étude qui nous explique que la Zambie, qui est à 120% du PIB au niveau de sa dette, annonce qu'elle risque de ne pas pouvoir rembourser. Et là, on vient de sortir 6 pays africains qui ont des ratios dette sur PIB supérieurs à 100%. Des pays comme l'Angola, le Mozambique, le Congo, l'Érythrée, la Zambie.
Et justement, la Zambie, voyez, effectivement, qui se rapproche d'un défaut de paiement, comment est-ce qu'on en est arrivé là en Zambie, à Kakonubukpo ?
C'est assez simple. C'est essentiellement la mauvaise gouvernance. Vous voyez, des pays comme le Congo-Brazzaville, qui sont des pays pétroliers, des pays comme l'Angola, qui se sont lourdement endettés à l'endroit de la Chine, se retrouvent aujourd'hui dans des situations qui font que l'annulation de leurs dettes renverrait simplement à une sorte de prime donnée à la mauvaise gouvernance. Mmh. C'est pour ça que nous devons faire très attention à ne pas pénaliser les bons élèves, ceux qui essayent de gérer sérieusement leurs finances publiques. Donc je comprends bien l'idée de vouloir donner des marges de manœuvre aux économies africaines, c'est tout à fait légitime, mais l'annulation de la dette nécessite qu'on fasse un audit, et il y a des cadres pour ça, l'OCDE a un cadre d'audit à moyen terme de la dette qu'il faudrait utiliser pour voir si cette dette est concessionnelle, donc si les taux d'intérêt sont plus faibles que les taux du marché, s'il y a des éléments dont supérieurs à 35%, et donc voir un peu la structure de la dette avant de décider d'éventuels moratoires ou d'éventuelles annulations.
Horace d'Orchestra Baobab sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie des économistes Kako Nubukpo et Estelle Brack pour parler des économies africaines face au Covid. Alors ce que la pandémie a remis sur la table, Kako Nubukpo, c'est la nécessité pour les pays africains de diversifier leurs économies trop dépendantes des matières premières et des exportations. Le constat est ancien mais est malheureusement toujours d'actualité.
Oui, et c'est bien dommage parce qu'on a l'impression d'être en phase avec le mythe de Sisyphe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début de la crise, ce qui a sauvé les populations urbaines africaines, c'est la petite agriculture périurbaine. Et donc, cette idée de promotion de circuits courts, parce que justement, les chaînes d'approvisionnement logistique mondiale étaient bloquées. Et donc, il n'est absolument pas compréhensible que nous dépendions à 95% pour notre approvisionnement en médicaments de l'Asie, que nous dépendions pour notre consommation de poulet de l'Union européenne ou pour notre consommation du lait des Pays-Bas. Donc vous voyez, il est temps, et je crois que la crise le montre bien, que la transformation structurelle des économies africaines puisse être enfin être une réalité.
Le plan de relance du Sénégal, qui fixe justement comme priorité majeure la souveraineté alimentaire, pharmaceutique et sanitaire, tout en visant aussi l'industrialisation, va donc dans le bon sens, selon vous aussi, Estelle Brack ?
Oui, tout à fait. Il y a une véritable prise de conscience qui va même au-delà de la dimension économique, hein, de promouvoir, je dirais même une prise de conscience de la richesse en fait dont dispose le continent africain, qui a été longtemps regardé. J'en parle, peut-être pas à moi de le dire, mais j'ai l'impression que le regard positif sur l'Afrique commence à être aussi considéré de l'intérieur. Les Africains commencent à vraiment prendre conscience eux-mêmes de la richesse que comporte le continent, et également de la capacité à faire quelque chose du continent. C'est porté par certains hommes et certaines femmes. Hein. D'abord, il y a des personnes formidables qui se sont engagées dans des projets qui sont pas simples à gérer, qui sont compliqués, mais qui montrent aussi l'exemple, ce qu'on appellerait des rôles modèles. Mais qui montrent qui veulent aussi montrer aux jeunes qui prennent des bateaux pour fuir vers l'Europe, trouver une vie meilleure. Ils veulent aussi montrer à ces jeunes-là qu'il y a des choses à faire sur le continent. Mmh. Et donc il y a vraiment un courant, je trouve, dans cet ordre-là, qui est, je trouve aussi, me semble-t-il, porté par le secteur privé. C'est vraiment le secteur privé et ses acteurs, quelques acteurs importants, de plus en plus nombreux, qui sont des personnes qui sont peut-être aussi pas forcément nées sur le continent, qui sont nées ailleurs et revenues sur la terre de leurs parents, par exemple, et notamment à la faveur, entre guillemets, de la crise de 2008 et de ses conséquences dans les pays occidentaux, mais pas que. Et il y a vraiment, je trouve, hein, une dynamique portée par ces jeunes de 20 à 50 ans. Oui, on est encore jeune à 50 ans.
Mais absolument.
Et qui est en fait, c'est vraiment là pour le coup le cœur de l'Afrique qui bat.
Alors ce sont des initiatives privées importantes, mais qui doivent être sans doute soutenues par des politiques. Alors je pense en particulier au secteur de l'alimentation. Pour vous, Kako Nubuko, pour en arriver à une autonomie alimentaire, il faudrait en passer par une politique agricole protectionniste ?
Oui, ce qu'il faudrait faire, c'est s'assurer que l'essentiel de la population africaine puisse quand même se nourrir. Vous savez, sur les 30 dernières années, pour 10 emplois créés en Afrique, on a eu 6 dans le secteur primaire, on a eu 3 dans les services et 1 dans le secteur industriel. Or, ces 60% d'emplois qui sont dans le secteur primaire n'ont contribué qu'à 16% de la valeur ajoutée africaine. Donc, ça veut dire qu'on a un gisement de productivité dans le secteur primaire, hein, dans le secteur agricole, dans le secteur rural, qu'il faut absolument exploiter. Parce que ça va permettre de résoudre en grande partie la question de la souveraineté alimentaire, puisque 70% de la population africaine est rurale, même si elle s'urbanise très vite. Et puis, ça va permettre aussi, ensuite, que le surplus de main-d'œuvre dont on n'aura pas besoin dans le primaire puisse se déverser dans le secondaire pour créer de la valeur et donc dans la transformation, notamment dans l'agroalimentaire. Donc, on voit bien se dessiner l'Afrique de demain avec des services qui vont se développer de plus en plus. Estelle l'a dit tout à l'heure, avec le secteur privé qui est très dynamique, porté par le numérique, mais aussi l'Afrique de grand-papa et de papa, l'Afrique rurale, qui structure encore quand même l'économie africaine, puisque, comme vous le savez, à l'heure actuelle, on a à peu près 50% de la contribution de l'agriculture qui est portée finalement par nos braves paysans. Ce qui me fait mal, c'est de voir que dans l'arbitrage que nous faisons d'habitude, nous donnons finalement tout pouvoir aux importations de biens et services. Un pays comme le Sénégal ne devrait pas être autant dépendant des importations de riz. Et c'est pour ça que je salue le plan Sénégal émergent qui met en son cœur le développement de la production locale de riz.
Alors pour réussir à transformer les matières premières, afin de créer de la valeur, il faut trouver des financements. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'ancienne ministre des Finances du Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala.
Je pense qu'en termes de ressources financières, il y a deux angles. Le premier, c'est d'abord de reconnaître que le secteur public ne peut pas tout financer. Et donc, nous devons attirer le secteur privé. Et aujourd'hui, au cours du forum de la Commission économique de l'Afrique, nous parlons de la façon d'attirer l'investissement privé dans l'énergie. Nous avons par exemple PIMCO, l'un des plus grands gestionnaires de portefeuille d'actifs, avec plus de 2 trillions de dollars, qui est venu ici. Et ils disent avoir besoin d'un bon environnement de régulation, de politiques attractives, de mitigeurs de risques qui vont leur permettre d'investir. La seconde partie de la question, ce sont les ressources domestiques. En tant qu'ancien ministre des Finances, je peux vous dire que nous devons également améliorer la mobilisation de nos propres ressources, une meilleure taxation, de nouvelles formes de taxes, de meilleures politiques fiscales et de gestion de l'impôt pour générer plus de ressources pour financer nos propres investissements.
Voilà Ngozi Okonjo-Iweala, qui aurait pu être la première femme africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce, mais sa candidature a été rejetée par les États-Unis. Alors, elle parle du secteur privé, on en a également parlé, mais également de la fiscalité, Estelle Brack. Il y a tout un chantier à lancer à ce sujet.
Oui, la plupart des pays africains ne sont pas du tout dans le même mode d'organisation qu'on peut connaître nous en Occident, au travers d'une fiscalité qui permettrait de collecter des ressources qui sont mises en commun au niveau du gouvernement et redistribuées ensuite. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve. Alors on peut lui donner des noms différents, mais vous pouvez vous retrouver devant un fonctionnaire de police dans une situation suite à un accident, par exemple, qui va vous demander en premier lieu de lui payer son essence pour venir, parce qu'il l'a mis avec l'argent de sa poche. Donc, en quelque sorte, vous payez le service public directement aux fonctionnaires. Mais c'est ce problème, en fait, d'organisation des États, et c'est difficile de blâmer les gouvernements actuels. C'est une longue histoire aussi à la fois de cette facilité en quelque sorte de ressources qu'ont apporté les ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le gaz, mais le bois et aujourd'hui les métaux précieux qui sont en fait la source du syndrome hollandais et qui sont la source aussi d'une certaine d'une absence de nécessité pour les États d'organiser justement une collecte fiscale et une redistribution.
La malédiction des matières premières, vous partagez ce point de vue à Kako Nubuko?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur l'impératif de transformation sur place des matières premières. Pourquoi? Parce que cette transformation va créer de la valeur et des emplois. Et donc, de nouveaux revenus, et ces revenus vont engendrer l'élargissement de la base taxable. Et c'est comme ça qu'on va avoir des États qui pourront financer des politiques publiques à partir de ressources beaucoup plus importantes. Parce que aujourd'hui, vous avez un rendement fiscal qui est très faible du fait de la corruption, des services fiscaux. Mais vous avez structurellement une base productive qui est étroite, qui fait que on ne pourra pas élargir indéfiniment la base avec des taux faibles. Ce qui serait l'idéal. Et donc, on voit bien que cet impératif de transformation structurelle des économies africaines, il n'a que des avantages parce que ça va permettre aux politiques publiques d'être financées et ça va permettre aussi au secteur privé d'avoir des interlocuteurs en particulier du secteur public, des interlocuteurs fiables. Parce qu'aujourd'hui, nous nous lançons beaucoup dans des partenariats publics-privés. Ce que nous espérons avoir à partir de ce type d'initiative, c'est un renforcement à la fois des secteurs privés, mais aussi un renforcement du secteur public, parce que ce qui caractérise quand même les économies africaines, c'est la double défaillance du marché et de l'État. Et donc, ça nous envoie, c'est un peu technique, à ce que nous, on appelle des optima de second rang. Mmh. Donc, il y a du travail à faire, mais c'est tout à fait passionnant. Parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous attendons 600 millions de jeunes sur le marché du travail dans les 40 prochaines années, à raison de 15 millions par an. Et on ne pourra pas leur trouver du travail avec ce type d'insertion au sein du commerce international qui reste primaire.
Mais la question demeure, où trouver de nouvelles sources de financement? On sait que la Chine a financé beaucoup d'infrastructures en Afrique, mais aujourd'hui, de plus en plus de pays africains redoutent les contreparties de ces investissements, Estelle Brack?
Oui, quand on regarde le financement des infrastructures, elles sont financées pour moitié par les gouvernements nationaux africains. Mais encore, ces gouvernements nationaux ne financent pas avec leurs fonds propres. Ils ont emprunté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et auprès de qui vont-ils emprunter? Souvent les banques locales qui placent leur, qui se rémunèrent comme ça. Et puis l'autre moitié, ce sont des agences bilatérales internationales, que ce soit européens ou des groupes de coordination arabes, les banques de développement multilatérales, et la Chine qui est en deuxième position après les gouvernements nationaux en termes individuels. Et la Chine a vraiment pris des parts de marché extrêmement importantes ces dernières années sur le financement des infrastructures et des projets structurés par rapport aux Occidentaux. Je rappelle, ce sont des projets, vous fournissez à la fois le pont, par exemple, la construction du pont, et en même temps, vous fournissez un financement au gouvernement qui souhaite mettre en place ce pont. Et les Chinois sont entrés très fort sur le marché, à la fois avec des prix de production de ces ponts, par exemple, moins élevés qu'en Europe, et avec peut-être des exigences un petit peu moins élevées, et puis en même temps accompagné de financement avec des taux bonifiés par l'État chinois.
Sauf que les pays africains commencent à résister à ce qui est vécu un petit peu comme un nouveau colonialisme de la part de la Chine, notamment le Kenya essaye de s'affranchir de sa dépendance envers la Chine.
Oui, il y a une prise de conscience en fait, il y a une lune de miel en quelque sorte, et une prise de conscience assez récente, notamment avec cette histoire d'aéroport international en Sierra Leone, alors qu'il existe déjà un aéroport et le président nouvellement arrivé en fonction a récusé en fait l'accord avec la Chine. Et ça a commencé ça a semé le trouble en fait dans les relations entre pas mal de dirigeants africains et la Chine. Mais il y a une prise de conscience en fait que ces investissements ne sont pas si peu chers que ça et qu'il y a un coût supplémentaire. Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées sur le continent. Avec une prise de conscience en fait que les Chinois, en venant proposer par la construction d'un train, demandent la concession du terrain à côté et pour récupérer aussi des matières premières et des métaux rares ou des choses comme ça. Donc il y a eu un rejet de l'Occident historique et ils se sont tournés vers la Chine et se sont rendus compte que la Chine ne se comportait pas forcément mieux que ce qui était reproché aux Occidentaux.
Kako Nubukpo.
Oui, tout à fait. Estelle a parfaitement raison. À la décharge des Chinois, il n'y avait pas de volonté de la part des bailleurs traditionnels d'aller dans le secteur des infrastructures. Je pense que les Chinois ont pu profiter de ce vide pour imposer finalement leur façon de voir les choses. Et les États africains sont en train de sortir de cette lune de miel, notamment parce qu'on a vu l'expérience de Sri Lanka, qui a dû concéder pour un siècle son port quand ils étaient incapables de rembourser leurs dettes à l'endroit de la Chine. Mais en même temps, la Chine fait des efforts parce qu'elle se rend compte que le coût politique de son comportement, qui est un comportement de prédation, devient exorbitant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine fait partie des observateurs du Club de Paris. Et effectivement, on espère que dans le cadre du G20, elle va jouer un jeu coopératif afin qu'elle ne donne à nos États que des prêts à des taux concessionnels, donc à des taux d'intérêt inférieurs au taux du marché, et avec un élément donc d'au moins 35%. Mais je crois que la coopération tripartite, hein, Chine, Occident, Afrique, est quelque chose d'incontournable à l'heure actuelle. Et je crois que dans la gestion de certains ports africains, cette coopération est déjà une réalité dans certains pays.
Il y a cette coopération et puis l'un des leviers de croissance aujourd'hui pour le continent africain, c'est l'intégration régionale. La zone de libre-échange continentale africaine est entrée en vigueur en mai 2019. Écoutez son premier secrétaire général, le Sud-Africain Wamkele Mene.
Même au cœur de la crise du Covid-19, la zone de libre-échange continentale africaine recèle un grand potentiel pour l'Afrique. En fait, quand vous regardez ce qui se passe autour du monde, beaucoup de pays ont fourni un paquet de mesures de relance pour leurs citoyens. Les États-Unis avec plus de 3 trillions de dollars, certains disent près de 6 trillions de dollars. L'Union européenne avec près d'un trillion de dollars. Aucun pays africain n'est en mesure de faire ça. Ce qui signifie que nous devons voir la ZLECA comme un outil de relance, année après année, à partir de 2021, comme un facteur de croissance économique en Afrique. Stimuler le commerce intra-africain est absolument essentiel et permettra de remettre sur pied l'économie africaine. Donc, de mon point de vue, la ZLECA est encore plus prometteuse en situation post-Covid-19.
Estelle Brack, à quelles conditions la ZLECA réussira-t-elle à stimuler le commerce entre les pays africains comme elle se propose de le faire ?
Elle sera bénéfique aux pays africains, comme l'a très bien dit Kako tout à l'heure, dans la mesure où les pays africains sont capables de produire eux-mêmes et de faire circuler leur propre production. Si la ZLECA permet à la Chine, en entrant dans un des pays du continent et de vendre ses produits partout sur le continent, le pari est perdu. L'idée, c'est de promouvoir en fait des acteurs africains et de pouvoir faire en sorte de leur proposer des grands marchés. Mais il ne faut pas non plus omettre le fait que les échanges intra-Afrique, intra-continent, existent déjà. Et il y a déjà un certain nombre de, enfin beaucoup d'échanges commerciaux qui sont faits entre les différents pays de la région, des biens, mais aussi des personnes, puisque l'Afrique est la première destination d'émigration des Africains eux-mêmes. Donc c'est créer ce marché, ce grand marché africain, mais qui va réduire les frais de douane pour les entreprises qui sont déjà en capacité de fournir des produits dans d'autres pays de la sous-région. Mais en même temps, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui soient en capacité de le faire.
Alors effectivement, l'idée est de profiter de cet immense marché, 2 milliards de consommateurs a priori en 2050, vous nous le disiez, Kako Nubuko, l'intégration régionale, et j'aimerais finir avec vous là-dessus, doit permettre à l'Afrique de se consolider sur le plan économique, mais peut-être aussi et surtout politique et diplomatique.
Oui, tout à fait. Je crois, et Estelle le disait très bien, Il faudra respecter les règles d'origine, c'est-à-dire que le contenu local des produits qui seront sur ce marché continental, il faudra vraiment qu'ils soient importants, ce contenu local, d'au moins 60%. Il faudra aussi jouer la carte de la solidarité, parce que si vous mettez sur le même marché la Gambie et le Maroc, s'il n'y a pas de transfert de ressources des pays africains relativement riches vers les plus pauvres, cette zone de libre-échange continentale ne pourra pas être un succès. Mais ce qui me paraît tout à fait stimulant dans cette initiative, c'est que ça revient un peu aux sources du panafricanisme. Vous savez, le narratif africain, il est puissant aujourd'hui parce qu'il embarque tout le continent africain. Les Chinois ont leur narratif avec les nouvelles routes de la soie, l'Afrique a son narratif avec le panafricanisme, mais on peine à voir les narratifs européens et latino-américains. Mais je sais que vous allez parler de l'Amérique latine bientôt.
Absolument, on consacre notre émission demain à l'Amérique latine. Un grand merci Kakonu Mukpo et Estelle Braque de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Kakonu Mukpo, j'invite les auditeurs qui voudraient aller plus loin à se plonger dans votre dernier ouvrage, L'urgence africaine, publié l'an dernier aux éditions Odile Jacob. Un grand merci. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et le journal de l'Écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Et le Japon confirme sa position de pionnier de l'hydrogène avec la finalisation de deux chaînes d'approvisionnement.
Oui, l'une pour l'hydrogène opérationnel dès 2021, l'autre expérimentale pour l'ammoniac, un composé de l'hydrogène, ce gaz source d'électricité verte parce qu'il ne rejette pas de dioxyde de carbone en brûlant, suscite autant d'espoir que de doutes écologiques et économiques. Il est l'objet d'une attention renouvelée des États signataires de l'accord de Paris qui y voient un outil pour accélérer la transition énergétique en vue d'une neutralité carbone en 2050 et dans le cas du Japon pour diminuer son ultra-dépendance en Europe, 14 pays ont inclus l'hydrogène dans leur plan de relance. L'Allemagne, la France et l'Union européenne ont chacune débloqué des milliards d'euros d'investissements pour stimuler la recherche et développement. Vous en parliez en septembre. Un train de retard sur le Japon donc, mais pas moins d'ambition, puisque le ministre de l'économie allemand, Peter Altmaier, envisage de devenir tout simplement, je le cite, le numéro un mondial des technologies de l'hydrogène.
Le signal est donné, Xavier, mais il faut passer de la R&D à l'industrialisation et la commercialisation. On en est loin ?
Oui, une partie de l'hydrogène est déjà compétitif. Hein. 80 millions de tonnes sont produites chaque année pour l'industrie et cette quantité augmente. Mais le marché des transports reste embryonnaire. Trains ou chariots élévateurs se vendent et puis sont encore à l'étude les navires, les avions à hydrogène d'Airbus. Mais l'automobile est loin d'un succès commercial. Elle reste très coûteuse. Les stations de stockage aussi. Et si la Chine en vise 1 million en 2030, quelques centaines de véhicules circulaient dans le monde il y a 2 ans, quelques milliers aujourd'hui. Elon Musk, le grand concurrent avec ses Tesla électriques, ne perd pas ainsi une occasion de railler cette idée complètement stupide, dit-il. Alors certains investisseurs prévoient une explosion des différents marchés d'ici 2030. Selon un groupe suisse, celui du Japon devrait être multiplié par 56, mais on reste tout de même dans des ordres de valeur de quelques milliards d'euros comparés aux centaines de milliards d'investissements qu'il faudrait.
Et puis reste la principale inconnue, l'hydrogène pourrait-il rendre viables les futurs réseaux énergétiques verts ?
Alors, d'un point de vue technologique, oui, car les piles à combustible, donc à hydrogène, ont un pouvoir de stockage de l'électricité bien supérieur aux batteries lithium et résoudraient donc un problème majeur dans l'électrification verte et dans la transition énergétique. Mais pour les investisseurs, son avenir dépendra d'au moins 2 facteurs. La différence de coût par rapport aux énergies traditionnelles fossiles. Le Japon vise par exemple la parité en 2030 dans la production électrique. Et puis surtout, la couleur.
La couleur de l'hydrogène ?
Ah oui, l'argent, lui, n'a pas d'odeur, mais il aura la couleur de l'hydrogène, la capacité à produire un hydrogène qu'on appelle vert compétitif, non pas extrait du charbon, gaz ou pétrole comme 95% de la production actuelle. Par exemple, l'hydrogène japonais est produit à partir de lignite en Australie, mais produit uniquement à partir de l'eau et des infrastructures vertes sur lesquelles il serait branché. Et c'est ce rôle d'intégrateur qui, en quelque sorte, bouclerait la boucle de l'électricité propre et en ferait une clé de la transition énergétique. Mais l'hydrogène vert reste pour l'instant plus cher que ses homologues gris ou bleu.
Ce qui entraîne ces derniers jours une nouvelle réflexion sur la stratégie hydrogène française.
Ah oui, cette stratégie, c'est donc un pari présenté fin septembre à plus de 7 milliards d'euros et perçu comme une étape importante en regard des 100 millions d'euros annoncés par Nicolas Hulot il y avait 2 ans. Mais si l'hydrogène reste incontournable pour verdir l'économie, dit l'expert énergie à l'IFRI Cédric Philibert, il faut en cibler l'usage sur quelques secteurs, le transport ou les aciers verts, et ne pas croire qu'on peut l'étendre à tout. Attention aussi au mirage des technologies de rupture, renchérit le géoéconomiste l'économiste Nicolas Mazzucchi dans Le Monde, qui s'inquiète de ce qu'une puissance industrielle moyenne comme la France ne s'engage, je le cite, dans l'enchaînement délétère, absence de choix clairs, saupoudrage des investissements, faiblesse des incitations industrielles, retard sur le marché, et au risque d'un échec industriel de l'hydrogène, poursuit-il, mieux vaut préférer le nucléaire que le physicien Gérard Bonhomme dans The Conversation considère justement comme l'outil idéal pour faire tourner les énormes électrolyseurs qui produisent l'hydrogène vert. Alors tout est dans tout, et question Tiffaine pour une dissertation, l'uranium, concurrent ou solution à l'hydrogène.
Et bon, on va s'y atteler tout de suite, merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho.
We're playing in the yard, giving goosebumps to all the Sunday summer trees. My hands were tangled in the weeds, moving so softly nobody can see. Against your morning skin, while it's shy like two young lovers walking by. There's a soft, strange kind of art, giving company to all the lonely hearts.
Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Bruno Barada, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. Demain, direction donc l'Amérique latine, où le Brésil a passé le seuil des 150 000 morts à cause du Covid. Les économies sud-américaines, malades des inégalités, réussiront-elles à se relever? On posera la question à Pierre Salama et Vera Chiodi. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.